Alors, est-ce que tu peux nous présenter Death Awaits?
Alors, Death Awaits, c'est un groupe de death thrash hardcore qui existe depuis 2002 en fait. On a sorti notre quatrième album donc en octobre dernier à Pure Smite. Donc on est de Lyon, on est de la scène lyonnaise et puis bon, on s'expatrie petit à petit un petit peu partout en France et un petit peu à l'étranger aussi.
Alors, est-ce que tu peux te présenter toi plus personnellement et surtout ton parcours avant ou pendant, enfin tu vois, un peu tes racines artistiques avant Death Awaits?
Ouais, alors moi du coup c'est Olivier dans le groupe, donc je suis guitariste. J'arrive dans le groupe en 2018, je devais rentrer dans le groupe juste avant l'enregistrement, donc il y avait lieu fin 2018. Et puis est tombée la date de Death Awaits avec Exodus, donc j'ai rejoint forcément la formation à ce moment-là pour profiter de cette date-là assez exceptionnelle, quoi, c'est super cool. Donc moi je suis dans le groupe depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, et avant ça donc j'ai eu des groupes qui existent toujours d'ailleurs, hein, Evolution notamment, une formation Evie sur Saint-Etienne. J'ai été aussi dans Furien, qui était un groupe qui n'existe plus mais qui est un groupe de trash sur Saint-Etienne. Et puis voilà quoi.
Et au niveau de tes influences, où t'es un peu tes musiciens références?
Mes musiciens références, je suis un gros fan depuis longtemps en termes de musiciens de Dimebag ou de Friedman par exemple en guitariste.
Ah oui, d'accord.
Et après, je suis très, depuis tout jeune, très death, trash, un peu ouais, black, je veux dire, on va dire les groupes phares, ça fait du Pantera, section death, quoi. Voilà.
Donc tu disais effectivement, le groupe a démarré en 2002, il y avait eu des démos en 2003-2007 et un split album en 2009. Tu, dans cette période-là où tu n'étais pas dans le groupe, tu gravitais autour d'eux, enfin tu les suivais un peu, tu...
Ah non, alors pas du tout. En fait, c'était j'ai pareil connu au bataillon, hein. Pas du tout, mais en fait, je connaissais pas vraiment les gars, je connaissais le groupe de loin. Non, avant de rentrer dedans, enfin on va dire avant les 2 années qui ont précédé mon intégration au groupe, je suivais le groupe de loin. Je sais pas tellement
d'accord.
Proche de la formation. Ouais.
OK. Non, c'était donc effectivement, comme tu le disais, quatrième album là, donc qui est sorti fin d'année 2019. Si on regarde un peu justement l'histoire du groupe, alors là aussi tu en parles avec ton ressenti ou ce que tu as pu en discuter avec les autres membres, les plus anciens. Et a priori, on trouve que le groupe, tous les trois ans environ, vous sortez un nouvel album. Tu sens que c'est un rythme naturel pour le groupe, 3 ans environ.
En fait, ça reste un rythme naturel, humainement parlant, on va dire, dans le sens où c'est un objectif qui est atteignable, c'est un objectif qui n'est pas fixé forcément, je veux dire, c'est pas une règle du groupe, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup en fait maintenant, les groupes sortent, on va dire en majorité, un album tous les 2 ans, 2-3 ans, donc en fait c'est assez naturel.
D'accord. Donc en plus de la sortie de l'album, vous avez eu surtout ces derniers mois des grosses périodes d'activité, donc avec le Rapture Tour, donc qui vous a fait passer en France, en Espagne ou en Grande-Bretagne. Avec la perspective, si tu te replonges sur cette période-là, qu'est-ce que tu retiens en particulier de cette tournée?
Ce qui m'a marqué moi?
Ouais.
Ah, c'est de tourner en Angleterre et en Écosse. C'est quelque chose dont j'avais vraiment envie avant, parce que c'est un public qui a vraiment la culture du métal depuis très longtemps et qui est très ancré, et j'avais envie un petit peu entre guillemets, hein, pour la gloire personnelle, d'aller tourner là-bas. Et puis en plus, j'avais vraiment envie de me confronter à ce public-là.
D'accord.
Un public qui a l'habitude de voir sortir des groupes, un public qui a l'habitude de voir des groupes émerger et devenir des gros groupes, parce que on va dire c'est plus commun que chez nous. Et donc j'avais envie personnellement de me confronter à ça. Et le résultat, c'est que ça s'est super bien passé.
On peut se dire que, enfin, du point de vue voilà de moi et qui suis ça un peu de l'extérieur, c'était quand même comme un truc qui est presque gonflé de votre part de dire bon, on se lance sur une tournée, on sort des frontières, on va en UK qui est comme tu disais un public particulier mais qui peut être aussi un public difficile, hein, tu dis toujours comment vous allez être accueillis, sans doute peut-être aussi un risque financier pour vous parce que ça allait vous coûter de la thune. Comment voilà, c'était collectivement, c'était voilà se faire un kiff et vivre son l'aventure jusqu'au bout.
Alors c'était un kiff, mais c'était aussi pas désintéressé dans le sens où notre but c'est de s'exporter un maximum.
Mmh.
Donc ça fait partie des objectifs du groupe. Je pense qu'on le sent bien depuis Solvecovilla, donc l'album d'avant.
Ouais.
Où vraiment le groupe a pris une tournure de dire voilà, maintenant on pousse au cul les gars quoi. On tourne à mort et tant qu'on peut on va le plus loin possible. Et donc en fait c'est dans cette optique là. Cette occasion elle s'est présentée en fait c'est grâce à Baka Production, donc la fille qui a Cristal qui est sur Lyon. C'est une amie hein, mais je veux dire qui est quand même un peu derrière nous, qui croit en nous et qui me dit les gars j'ai un groupe écouté à faire tourner, je vais vous faire tourner avec eux quoi. Et pour la petite histoire, ce qui s'est passé c'est que tout est tombé un petit peu en déconfiture peut-être deux semaines avant la tournée où le groupe a annulé et là on s'est retrouvé à dire bon et ben qu'est-ce qu'on fait, on y va quand même, on y va pas parce que les frais sont pas les mêmes,
ben, bien sûr, ouais.
On partage moins de trucs etc. Et on a dit ben putain on y va, enfin moi j'étais le premier à dire les gars moi si je peux jouer en Angleterre, comme tu disais, le public il est dur, nous tous les gens qu'on connaît des autres groupes qui ont tourné là-bas, que ce soit les V-Lights, que ce soit des potes qui ont tourné là-bas, qui m'ont dit putain l'Angleterre c'est dur quoi. C'est un public qui est difficile parce qu'ils en voient passer des millions, parce qu'ils savent ça, ils sont très critiques, et j'avais vraiment envie de me confronter à ça, pardon. Et le groupe aussi. Et du coup, on a dit, bah, on y va, en fait. Des occasions comme ça, on en aura, en tout cas, à l'heure actuelle, on en aura peut-être pas tous les quatre matins, donc on y va. Et donc, on y est allé. Et, oui, effectivement, financièrement, par exemple, c'était un risque. Bon, après, on a eu raison de le prendre, ce risque.
D'accord. Et un souvenir particulier côté Espagne?
Côté Espagne, c'était assez énorme, c'est moins de 10 ans, donc c'était moins marquant, entre guillemets. C'est plus roots. On a joué donc chez Fran, à Saint-Anger. C'est assez marrant, c'est dans une espèce d'hangar hyper roots, sous une tente, dans un hangar. Voilà. C'est vraiment, 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 vraiment fun. C'est plus roots, mais c'était cool, quoi.
D'accord, voilà. Ok. De la fatigue, mais ça crée une belle aventure et de bons souvenirs.
Ouais, et puis en plus de ça, on avait, c'est pas un secret, hein, tu vis avec des gens, on est un groupe, on a pour objectif que tout le monde se sente bien dans le groupe tout le temps. Partir en tournée, c'est quand même une aventure, hein, tu te dis, t'es cinq, toujours les uns sur les autres, toujours dans le bus, toujours dans les hôtels, dans les machins, sur scène, il faut que ça se passe bien. Et le constat de fin, c'est que humainement, ça s'est bien passé. Donc on est sorti grandi, en fait, dans ce constat.
Et donc, le départ de votre bassiste n'est pas lié à ça?
Non. En fait, le départ du bassiste est lié à la même chose que tous les changements de line-up qu'il y a eu dans DCOA. C'est que DCOA, ça n'a pas arrêté, entre guillemets, de prendre de la vitesse, ou en tout cas, de prendre la décision de vouloir prendre de la vitesse. Et c'est que ça correspond pas à tout le monde, en fait.
D'accord.
Et du coup, ça demande des investissements, du temps, de l'énergie.
Ah oui, là, vous dépassez le simple hobby, ouais.
Oui, ben, en fait, c'est un hobby, mais c'est un hobby coûteux. Alors, le but, c'est que ce soit pas un problème, enfin, comment dire. Faut pas que ce soit une peine, mais ça demande de faire des choix, ça exige de prendre du temps, ça exige de. Voilà, c'est un tas de choses, quoi.
D'accord, oui, c'est des sacrifices, il faut accepter de les prendre.
Exactement.
Donc tu disais, donc t'es arrivé un peu avant l'enregistrement de Rapture Smites. Mmh. En général, comment on est un titre au sein de Death Awaits? Vous avez un process un peu habituel?
Non, en fait, ce qui s'est passé pour les deux derniers albums, c'est que Jordan a été à la composition pour la majeure partie du contenu, en fait. Moi, je suis arrivé dans le groupe. Pour Rapture Smite, l'album était déjà composé. Il n'était pas enregistré, c'était pas du 100% fixé, mais c'était déjà composé.
Mmh.
Et moi, on m'a dit, au même titre que tout le monde, hein, mais en arrivant, on m'a dit, bah, écoute, mec, tu mets ton nez dans ce que tu veux, tu changes ce que tu veux, après on en discute. Mais t'as le droit de changer ce que tu veux. Et même si tu te sens bien avec ça, si tu préfères, on vire un morceau ou deux, j'en sais rien, on en refait ensemble. Mais voilà, le but c'est que chacun se sente bien avec la compo, avec son temps. Et ça montre bien l'idée du processus de création dans le trait, c'est que il n'y a pas de règle. À partir du moment où on sort un truc, les règles c'est quoi? C'est est-ce que tout le monde se sent à l'aise avec ce qu'on fait? Est-ce que tout le monde a envie d'assumer ce qu'on sort? Faut que tout le monde soit fier de ce qu'on fait, sinon c'est pas sain. Et est-ce que à la fin on a un produit qu'on peut dire c'est du SOE?
Ok.
Voilà. À partir de là, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Mais tu disais les échanges et le travail sur les premières bases de Jordan, c'est plutôt si vous échangez des fichiers et puis après vous c'est lors de jam quand si vous avez l'occasion de vous retrouver.
Non, le truc classique du guitar pro aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, c'est beaucoup du guitar pro. Et puis après, il y a certaines choses qui naissent en répète, mais ça c'est plus pour typiquement le prochain album, parce que moi je suis arrivé à un moment où on répétait plus en fait.
Oui.
Donc ça c'est mon expérience à moi, hein, mais c'était plus dans les répètes que se créaient les morceaux.
D'accord.
Voilà.
A priori, il y a aussi une continuité, même si c'est pas là pour soulever Coagula, que vous êtes à nouveau retourné au studio Vamakara à Clisson.
Ouais, c'est ça.
Donc je crois comprendre que le groupe était content du travail sur le troisième album.
Ouais, c'est ça. En fait, le groupe était content du travail qu'il avait fait sur Tommy Coagula. En plus, toujours un peu comme ça, en plus on connaissait déjà le gars. Alors moi, pas personnellement, mais le groupe connaissait déjà le type. Le type connaissait déjà le groupe, savait un petit peu ce qu'on faisait, ce qu'on voulait faire, etc. Donc en fait, c'est un peu tombé sous le temps. Plus ça, plus voilà, on voit son boulot à travers d'autres groupes, d'autres prestations qu'il peut faire. Donc oui, on est retourné vers ce gars-là. Ça tombait un peu sous le temps.
Et en termes de, ça a pris combien de temps la session d'enregistrement? Et en particulier, toi, ta partie, ça a pris combien de temps?
Alors en fait, en temps, je ne sais pas exactement, dans le sens où les guitares, la basse, on les a fait à la maison, chacun de notre côté en fait.
D'accord.
Chacun a son allure, alors avec des deadlines bien sûr. Mais je veux dire, si tu veux faire tes parties à 3h du mat dans ta chambre, c'est ton problème quoi. Et après par contre, avec HK, donc au studio, on faisait le mix et on a fait les prises chant. Et donc en fait, lui il a fait un premier étalonnage, une mise à plat, quand on est arrivé, et on a passé une semaine au studio pour enregistrer le chant, discuter un petit peu de ce qu'il avait reçu en prise, de dire qu'est-ce que t'en penses, etc. Le son, on partirait un peu là-dessus, etc.
D'accord. Et toi, sur ton expérience personnelle, c'est ce qui apparaît, c'est plutôt, donc même fait chez toi, c'est plutôt la première prise ou t'as un côté très 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 comment dirais-je, tu vois, direct, ou c'est souvent il faut que tu te chauffes et donc il y a plus de, c'est plutôt la xème prise après ou?
Ça dépend. Ça dépend des prises, ça dépend des morceaux. En fait, moi je suis un peu un psycho en plus en studio, je suis un peu un gros maniaque de la perfection ou de l'imperfection, et du coup ça peut vite prendre du temps, et je sais qu'en studio ça c'est compliqué, l'expérience de studio est très compliquée. J'enregistrais des albums en studio avant, et honnêtement j'étais content de faire des prises chez moi.
C'est-à-dire que t'as l'impression que t'as un espèce de compteur fric qui tourne derrière quand t'es en studio, où t'as envie de dire, il faut que tu trouves le compromis entre ta volonté d'un ton perfectionnisme qui est tout à fait qui est louable, et puis le côté, ça va me coûter des thunes, quoi.
Il y a le côté, ça va te coûter des thunes, et puis il y a le côté, en fait, il faut être complètement honnête. Quand tu vas en studio et que t'enregistres devant un mec qui t'enregistre, en fait, tu te fous un peu à poil. Et ouais. Ça, c'est difficile, en fait. C'est difficile parce que quand il y a un truc que tu passes, un riff, un solo, que putain, quand t'es chez toi, tu le passes nickel et que t'arrives là-bas et c'est pas aussi bien et que toi tu sais que tu peux faire mieux, en fait, c'est difficile à assumer ça. Et après, ça fait partie du jeu. Il y a des moments où au contraire, il sort des choses encore meilleures quand t'es en studio, quand t'es sous la pression, mais c'est comme en live, en fait.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Donc, j'aime les deux, honnêtement. L'un apporte le confort et l'autre apporte un peu plus de défis, mais peut ressortir de ça des choses que t'attendais pas forcément de toi si tu l'avais fait chez toi en fait.
D'accord. Donc là, on a parlé un peu plus de la compo musique. Au niveau des paroles, bon, c'est que vous êtes un groupe, il suffit de lire les paroles assez engagées sur des sujets contemporains. Là aussi, c'est une discussion entre vous, même si c'est l'un d'entre vous qui rédige, ou voilà, comment s'élabore la partie lyrics?
Alors, la partie lyrics, moi, j'y suis pour pas grand-chose, parce honnêtement, en fait, c'est Flo, donc notre chanteur, qui a écrit les paroles, ce qui me paraît assez logique, en fait, hein, puisque c'est... C'est lui qui les interprète, donc c'est lui que ça doit le plus faire vivre en finale. Et donc en fait, il a écrit les paroles, le thème est tombé assez sous le sens. On a ensemble très vite trouvé en fait ce rapprochement avec les Cavaliers d'Apocalypse.
Mmh.
Et en plus de ça, Tommy, donc notre batteur, qui lui est traducteur, donc a apporté un soutien littéraire en anglais qui a, je pense, pas mal servi le truc aussi.
D'accord, ok. Justement, bah, donc, tu parlais un peu du visuel et donc en particulier la pochette, qui est franchement très réussie, qui est signée Stan Dekker.
Ouais.
Comment vous avez bossé avec lui? Vous connaissez son travail, vous avez pris contact, vous aviez une idée très précise que vous vouliez, donc vous avez fait un descriptif très précis et vous avez fait des propositions, ou vous l'avez laissé beaucoup plus libre avec la musique? Enfin, comment s'est passé?
Alors en fait, on avait un thème. On lui a proposé le thème. Les lyrics. Je crois pas qu'on lui a envoyé les chansons, en tout cas pas tout de suite. Pas la musique. Mais il avait le thème, il avait les quatre cavaliers, et puis je crois que le seul truc qu'on lui a dit, c'est on aimerait bien une pochette qui claque, normal, voilà, le truc de base, mais on aimerait bien un truc assez central en fait.
D'accord.
Un truc qui plombe un peu au centre. En fait, c'est à peu près les seules choses qu'on lui a données. Il a fait un ou deux croquis, c'est tombé là-dessus, donc sur la pochette que t'as vu. Et en fait, on a dit, vas-y, fonce, en fait. Fonce, fais ça. Et les couleurs, il nous a promis, il a colorisé tout ça. On a dit, ouais, c'est très bien, continue, et puis voilà. Ça a été, honnêtement, ça a été très facile.
Parce que si on regarde par rapport à ton style habituel, c'est moins... D'habitude, il fait plus des trucs assez colorés, plus pour des groupes type, heavy classique ou un peu prog, machin. Et donc là, c'est plus dans les tons beaucoup plus sombres, et finalement dans les tons gris, bleu... Enfin voilà, c'est lié au thème, mais c'est assez différent de ce qu'il peut faire habituellement. Donc, ça a été beaucoup d'aller-retour entre vous et lui, ou ça s'est quand même passé très vite?
Bah, écoute, visiblement, ça n'a pas eu l'air de trop le déranger, puisque en fait, c'est un classe en venue de lui.
D'accord.
Je crois qu'on a eu cette discussion de dire éteinte bleu vert nous plaisent bien. On avait 2-3 exemples d'albums côté ça.
Mm-hmm.
J'ai eu pour la sirène.
Pas de soucis, ça fait partie du jeu.
Ouais. Mais non, en fait, c'est lui qui est venu avec cette palette de couleurs là. Et effectivement, on a une palette de couleurs qui est assez sombre, mais au final, il y a un contraste qui est assez prononcé sur cette pochette.
Mmh.
Et c'était quand même de son initiative, donc non, je pense pas que ça les dérange, je pense pas que ça sorte cette zone de confort de ce côté-là.
Et puis je pense que, enfin, là aussi, ce n'est que mon avis et c'est pas une critique. Je trouve que ça montre que le groupe a aussi passé un palier par rapport aux pochettes précédentes. Là,
ouais.
tu peux mettre ça au milieu de la pochette de 10 autres groupes peut-être beaucoup plus gros ou reconnus, et vous êtes loin de faire tapisserie, tu vois.
Ouais, c'est pas le figure, ouais.
Ça pas le figure, c'est vraiment, vous êtes tout à fait dans les standards très élevés des groupes parfois plus installés ou plus connus, quoi.
Bah écoute, je te remercie, c'était que le contrat est réussi, donc je te remercie pour lui déjà, pour son travail.
Mais c'était aussi, indirectement, c'était un peu votre idée, comme il disait, il faut qu'on passe un palier, il faut qu'on joue à l'extérieur, il faut qu'on se fasse connaître, et donc il faut...
Bah, c'est ça.
Donc on investit aussi sur la forme et pas que le fond, quoi.
Ben oui, mais forcément, en fait, on en est là aujourd'hui, que ce soit nous, mais en fait, c'est un constat général. De la même façon, tu peux dire la même chose pour la prod, par exemple.
Oui, absolument.
Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel groupe sort n'importe quel groupe, c'est pas péjoratif, hein. N'importe quel groupe sort un album, mais la prod est bonne, en fait. La plupart du temps, les prods sont toutes bonnes.
Les trucs super pourris, donc, ça n'existe plus, ouais, quasiment.
Ben voilà, c'est ça. Et donc, en fait, de la même façon, faut se démarquer. Alors, par contre, on va pas se muter, on va pas se dénaturer, on va pas se trahir, on va pas rentrer dans une imposture pour se démarquer. Mais par contre, on va mettre toutes les chances de notre côté, en fait.
D'accord. Et justement, tu disais dans le côté investissement, et là aussi, essayez de vous démarquer. Donc, je trouve qu'il y a deux trucs assez rigolos. Bon, le côté du QR code pour récupérer des bonus. Donc ça, bon, c'est pas les premiers, mais c'est quand même on le voit assez peu. Et puis surtout, tu peux nous dire un petit mot sur la Death Awaits Army Box?
Oui, alors en fait, ce Death Awaits Army Box, à la base, c'est venu aussi beaucoup du fait qu'on a un noyau dur de fanbase sur Lyon, mais pas que sur Lyon, on va dire en France. On a vraiment un noyau dur, ouais, de fans amis, proches, qui nous suivent, qui nous soutiennent et qui sont impliqués dans le groupe réellement. C'est-à-dire d'un point de vue pratique, qui nous aide pour le merch, qui nous aide à flyer, qui nous aide à faire les rodis, etc. Et ça, putain, on les remerciera jamais assez. Et en fait, cette box, elle est à la base, elle est venue de ça. Elle est venue de dire, putain, est-ce qu'on ferait pas un truc pour ces mecs, en fait. Dire, putain, vous êtes vraiment fans, merci, quoi, est-ce qu'on vous ferait pas un bundle pour vous? Et donc, en fait, l'idée était bonne, selon moi, et donc, en fait, on l'a proposé à tout le monde, ce truc-là. Et effectivement, d'un point de vue, promo, etc., bah, ça pète un peu, parce que ça propose un bundle avec un beau graphisme, avec, voilà. Mais l'idée de base, c'était ça.
D'accord. Et juste pour les retardataires, il vous en reste?
Ouais, il nous en reste. Il faut se dépêcher un peu.
Voilà,
parce que je crois qu'il nous en reste un truc comme 6-7, je crois.
D'accord, bah donc le Bandcamp est le bon endroit pour avoir tout le détail.
Oui, ouais. Et je souligne ce que tu viens de dire avec le Bandcamp, parce que le Bandcamp, c'est vraiment une très très bonne façon de nous soutenir. Parce que que tu achètes un CD ou n'importe quoi à la Fnac ou sur le Bandcamp, la différence c'est que le Bandcamp, en fait, il n'y a pas d'intermédiaire.
Ah oui, donc comment on est sûr que l'investissement, c'est vous qui le récupérez, quoi.
C'est ça. Et du coup, ça a une vraie valeur pour nous, en fait. Enfin, je parle pas de thunes, mais le fait d'acheter sur le Bandcamp, c'est beaucoup plus un soutien, quoi, vraiment.
Et toujours, là, sur l'histoire de la box, toi, perso, t'es aussi un collectionneur? T'achètes les versions limitées des disques et des machins, ou pas du tout?
Alors, je cours pas après, je suis pas un chercheur, on va dire, de ça. Mais ouais, j'aime bien ça, quand un groupe propose un bon truc, et que effectivement il y a du contenu dedans, ouais, bah oui, ça fait toujours plaisir. L'objet, forcément, un beau graphisme, une belle affiche, un patch, je sais pas moi, n'importe quoi, oui, forcément, ouais, ça me plaît.
D'accord. Toujours au niveau visuel, en plus de la pochette et donc de la Army Box, donc vous avez sorti au moins, d'après ce que j'ai trouvé, deux clips officiels pour extraits du nouvel album. Donc
ouais.
J'ai trouvé Evergreen House et Loot Thy Neighbor.
Ouais.
Donc il y a des montages entre le, il y en a un qui est plus scénarisé, on voit le groupe jouer, l'autre c'est plus des un montage de différentes images d'actualité pas très fun, etc., même si on voit le groupe plutôt en studio en train de travailler. C'est le type d'exercice qui vous amuse et vous plaise, ou c'est plus une nécessité un peu maintenant pour la promo, mais qui est un peu qui me plaît à réaliser?
Bah, en fait, c'est un peu les deux, dans le sens où clairement c'est un avantage promo. Et en tant que consommateur, nous, en fait, on le voit bien que quand un groupe qui sort un nouvel album, qui sort du contenu, etc., c'est toujours plaisant, en fait, quand t'as un clip qui sort. Mais pas que, t'as aussi un playthrough, t'as aussi une lyrique vidéo, parce que c'est le cas. Du coup, t'as parlé de Thy Neighbor avec le clip, t'as parlé de Evergreen House avec cette espèce de musique vidéo. Un clip avec un peu de plaisir au milieu. Mmh. Et on a sorti une lyrics vidéo aussi sur Circling the Drain. Et en fait, il y a une autre vidéo qui va sortir qui est un plaisir intégral.
D'accord.
Sur Better Think Twice. En fait, c'est un mélange des deux, dans le sens où on sait très bien que d'un point de vue promo, bah, ça a un impact parce que c'est toujours plaisant à regarder, mais en même temps, on a envie de les faire parce que ça nous plaît, en fait.
D'accord. Bon, bah, c'est important.
Voilà. Non, mais on s'éclate, nous, à faire ça.
On s'éclate
à faire de la musique et à faire...
Et donc, les images du groupe en train de jouer, ça a été tourné où?
Alors, en fait, il y en a Jordan sur Evergreen House. Ça a été pris au Ramakara Studio, donc avec les sons, où on a fait donc le mix, mastering, chant, etc.
Ouais.
moi, je suis filmé au DLM Studio, donc à Montpellier-sur-Loire, près de Saint-Étienne, qui est accessoirement le studio de mon cousin, en fait, où j'ai fait quelques prises là-bas.
D'accord.
Voilà. Et puis, il y a Thomas, donc, qui était bassiste à l'époque de l'enregistrement de cet album, qui avait fait des prises chez Damien. Tu sais, je t'ai dit qu'on avait fait des prises un peu à la maison, etc.
Ouais.
Et Damien, en fait, c'est le guitariste que moi j'ai remplacé.
D'accord.
Qui n'est plus dans le groupe, mais qui nous fait le son, qui a été régisseur pour nous sur quelques dates, etc. Donc voilà.
Ok. Ok. Juste pour terminer, donc deux dernières petites questions. Finalement, avec le recul et toi, ta connaissance interne, qu'est-ce que tu peux, quel est ton ressenti en général sur la scène métal en Rhône-Alpes? Enfin, maintenant, je ne sais plus dans la région, je sais plus comment elle s'appelle, Auvergne-Rhône-Alpes, je ne sais plus quoi, mais bon.
Ouais, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça. En fait, mon ressenti est plutôt bon, dans le sens que ça a toujours été quand même un vivier. Enfin, je veux dire, c'est une pépinière. On a la chance d'avoir une scène de métal qui est quand même très vivante. Saint-Étienne, on a beaucoup bâti ces dernières années, mais en fait, ça tend à revenir, puisqu'il y a des salles avaient été fermées, etc. Puis là, il y en a une nouvelle qui s'est réouverte, qui s'appelle le Disorder Club à Saint-Étienne, pour laquelle on organise des concerts. Nous, sans forcément jouer juste en orga.
Okay.
Parce que ça nous paraît important de faire revivre cette scène métal. Et en plus, c'est bien accueilli, quoi. C'est bien accueilli, les gens sont contents, les gens viennent, donc voilà. Après, au niveau de la scène française, je sais pas, il me semble qu'on fait quand même généralement de la bonne musique en France, qu'il y a des bons groupes, que ça pousse un peu partout, et qu'effectivement, t'as un petit peu du mal à sortir un peu de nos frontières et à percer réellement. Mmh. Et je me fais pas de soucis sur le potentiel en France à créer, en fait.
La question va peut-être te paraître idiote, mais votre vue de Lyon ou Saint-Étienne, la relative proximité avec la Suisse, ça peut aider ou ça pas spécialement?
Aider.
C'est-à-dire vous aider, avez.
Si on y joue, c'est pas loin, mais sinon.
Parce que on a l'impression que c'est un marché plus porteur pour notre musique, mais avec une concurrence forte.
Il y a de grosses dates organisées en Suisse, etc. Bah d'ailleurs, on y joue en Suisse, hein. On y joue le 24-25 avril.
D'accord.
À Lausanne et à Genève.
Mmh.
Donc venez. mais non, je sens pas de concurrence là-bas et je sens pas forcément non plus la grosse opportunité d'un point de vue personnel.
D'accord. Et puis donc, tu viens commencer à y répondre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou qu'est-ce qui arrive là dans les semaines et les mois qui viennent?
Beaucoup de concerts, et ce qu'il faut nous souhaiter surtout, c'est que ça ne s'arrête pas là, et ça ne s'arrêtera pas là, clairement. Et jouer. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer. On veut diffuser notre musique à fond, on veut rencontrer les gens, on veut jouer pour des publics qui viennent et qui sont motivés. Voilà, nous, c'est ça qu'on veut, en fait.
Vous avez des objectifs ou vous travaillez spécifiquement, je pense, depuis déjà un petit moment, sur tout ce qui est festival d'été?
Exactement. Donc on a deux trois trucs qui sont dans les tuyaux, pour être honnête.
Parce que d'après ce que j'ai compris, le groupe, il y a en 2009, avait gagné un concours pour et qui a fait le Hellfest.
Eh ben alors là, je t'avoue que j'ai un gros doute, que j'étais pas dans le.
Non, c'est bien, mais donc l'idée, ça serait de.
Moi, il me semblait que c'était Bootsender qui avait joué au Hellfest, qui était un autre groupe de flou à l'époque.
Ah, c'est peut-être moi qui confonds là. Bon, tu demanderas à tes collègues qui ont connu. Je fais peut-être une erreur, une confusion. Mais bon, je devine que tous les groupes français, c'est les dates qui font rêver, quoi.
Bah, ce serait un peu la consécration, en fait, clairement. Et puis là, nous, le Hellfest, ça a été dans les tuyaux. Il y a eu, ça a été une grosse question l'année dernière. Puis finalement, ça se fait pas pour X raisons.
Mm-hmm.
Mais clairement, on espère pour l'année prochaine. Et puis, il n'y a pas que le Hellfest. Il y a 2-3 festivals qui sont dans les tuyaux actuellement.
Okay.
Donc on a annoncé la deuxième partie du Rapture Tour qui va jusqu'à mai. Et puis on annoncera la suite pour la suite. De 2020 et puis 2021.
Bon, en tout cas,
2020-2021, on défend cet album. Et puis pour 2022, ça c'est sûr, par contre, on sort un nouvel album et ce sera l'album des 20 ans du groupe. Donc là, ce sera en grande pompe.
Super.
Énorme sortie.
Bon, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour les temps qui viennent. Et puis on va vous suivre Facebook et Bandcamp.
Ouais, écoute, je te remercie.
Et puis, bon courage et bon retour, à bientôt.
Merci beaucoup, salut.
Salut.